Hello and welcome to And If It Were True. Bonjour Dominique Duvivier.
Bonjour
Lionel. Là Dominique me regarde avec des gros yeux disant mais qu'est-ce qu'il fait. Je voulais introduire l'émission d'une façon un peu différente.
Yes, indeed.
Bon, on va continuer en français, si vous voulez bien.
Bon, oui.
Ce sera...
Moi, je peux faire dans toutes les langues, hein, mais bon.
Oui, mais pour moi, c'est plus difficile.
Mais voilà, par commodité, on va faire pour toi en français.
Dominique, j'aimerais... on en parlait juste avant là, d'enregistrer ce nouveau numéro. Vous vous rendez compte, Happy Birthday. C'est les 5 ans de « Et si c'était vrai ?»
Ça, c'est incroyable.
C'est, ça
fait tu vois, tu m'aurais posé la question sans me dire combien. J'aurais dit 2-3 ans maximum.
Ouais.
Et ouais, on ne te voit pas vieillir. Hein.
Non, ça passe vite.
C'est fou. Hein.
Et oui, donc ça fait 5 ans qu'on fait des podcasts. Et puis, comme quoi vous disiez dans un des premiers numéros, c'est un puits sans fond.
Ouais.
Alors, on en fait la démonstration. C'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est d'aborder un thème qu'on n'a jamais abordé de frontal. Je vais le dire comme ça. On n'a jamais réellement abordé le thème des cours de magie. En thème d'émission générale, on a abordé, bien sûr, dans le cadre des podcasts, vous avez abordé le fait que vous donniez des cours, mais on n'a jamais fait un thème.
Oui.
Et j'aimerais qu'on en parle plus précisément, en fait. Et ma première question par rapport à ça, c'est, il me semble, sauf erreur de ma part, vous avez confirmé ou pas, qu'à un moment donné, vous aviez décidé d'arrêter de donner des cours, et puis vous avez repris. Alors, est-ce que je me trompe ou pas ?
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Alors, pourquoi avoir arrêté ? Et puis, pourquoi avoir décidé de reprendre, finalement ?
Alors, pourquoi avoir décidé d'arrêter ? Je crois que c'était simple, c'est que donner des cours, ça prend beaucoup de temps. Et en 1987, j'ai décidé d'acheter un lieu magique qui allait être le Double Fond, que j'ai donc acheté en 1988. 1er juin 1988.
D'accord.
Et en 87, j'ai gentiment expédié, remercié tous les élèves que j'avais encore à ce moment-là, en leur faisant comprendre que là, je changeais de braquet, tu vois, j'allais donc faire autre chose. Et donc, je ne pouvais plus m'occuper... de gérer justement cette clientèle d'élèves, parce que mine de rien, j'en avais beaucoup.
Ouais.
Donc j'en ai fait encore quelques-uns en 87, peut-être encore 2-3 jusqu'à 88. J'ai peut-être dû en garder, parce que tu auras toujours un mec ou deux qui vont traîner et qui vont dire « mais je ne comprends pas, parce que il me semble bien en 89 avoir pris des cours avec Dominique Duvivier, c'est possible ». Mais globalement, c'est un peu comme l'essaim d'abeilles. Tu as tout la ruche avec tout machin, puis après, tu en as quelques-uns, les abeilles, elles ne se rappellent plus où c'était, tu vois, donc elles se promènent un peu à côté. Mais donc, voilà, il peut y avoir, dans une chose que tu décides, il y a toujours un peu l'effet ruche, hein, oui, si on peut dire. Mais disons que j'ai arrêté 88 parce que le Double Fond, je voulais. Créer ce lieu et puis pas seulement le créer, mais le remplir. Parce qu'après, il fallait y mettre des spectacles, travailler, concrétiser en fait vraiment le fait d'avoir un lieu et de le rendre vivant. Voilà pourquoi j'ai arrêté.
D'accord. Et alors, donc il y a eu cette énergie qui a été orientée et complètement concentré sur la création et rendre vivant le Double Fond. Et à un moment donné, vous avez décidé de reprendre les cours. Ça, c'est quoi ? Parce que vous aviez plus de temps ? Parce que...
Voilà, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est effectivement quand les choses ont commencé à être lancées, Bah, j'ai levé un peu le pied au niveau du double fond. Je voulais qu'un certain nombre d'élèves qui étaient avec moi à ce moment-là, et qui sont d'ailleurs pour la plupart toujours avec moi aujourd'hui, prennent leur envol aussi au niveau du double fond. Et comme je suis un peu tentaculaire, charismatique, pas forcément dans le bon sens, quelque part c'est bien, mais ça peut être pas forcément bien. Donc, à un moment donné, vers 92, 93, peut-être un poil avant, j'ai dit, bon allez, maintenant j'y vais plus, ou j'y vais beaucoup moins, et démerdez-vous, maintenant c'est à vous de gérer et faire des spectacles.
D'accord.
Parce que si j'avais continué, ceux qui étaient en place, genre Philippe de Pertuis, Jean-Pierre Crispon, bah, ils auraient bricolé, mais ils n'auraient pas vraiment travaillé en mettant un coup de collier, tu vois.
D'accord.
Parce que finalement, Dominique, il est là, donc c'est bon, quoi, tu vois, dans leur tête. Donc Dominique n'était plus là. Donc du coup, il a fallu qu'ils aillent au charbon. Et grâce à ça, bah, ils ont pu faire des choses géniales.
D'accord.
Donc ça, c'est un des aspects. Et un autre aspect, donc il y a le temps. J'avais plus de temps, quand même, parce qu'une fois que c'était lancé, bah, fallait faire venir des clients... Et comme on n'avait pas d'argent pour faire de la publicité, ben, on s'est tourné vers l'idée du bouche à oreille. Évidemment, ça prend plus de temps, mais c'est efficace. Et puis, il y a aussi que donner des cours, comme je les ai donnés, dans, on va dire, dans la première ou deuxième période, hein, ça ne m'intéressait plus aussi. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein,
oui,
quand
oui.
Tu m'as posé la question. Mais il y avait ça aussi. C'est-à-dire que je commençais à en avoir assez de donner des cours à des gens qui, bon, ils venaient prendre des cours. Puis je leur apprenais des choses. Ils étaient contents et j'étais pas mécontent. Mais ils venaient quand même, globalement, pendant une heure ou deux, s'ils prenaient un cours d'une heure ou de deux heures, ils travaillaient une heure ou deux avec moi quand ils venaient, quoi. Si tu veux, c'est un peu le problème... Des gens, des élèves, enfin des gens en général et des élèves en particulier, c'est que tu as souvent des élèves, bah, ils ont envie de prendre des cours, mais ils travaillent quand même pas à mort chez eux. Et moi, les premières années, ça m'a pas trop dérangé, j'irais même, je m'en suis pas rendu compte, parce que j'étais la tête dans le guidon, très passionné, machin, tu vois. C'est génial, je travaille, je donne des idées aux gens, puis je fais ce que j'aime, quoi. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte aussi que j'apprenais mon métier aussi, en même temps. Tu sais, comme disait Jerry Lewis, quand on lui posait la question, il avait 200 personnes devant lui, qui étaient des élèves à lui, et un intervieweur lui a demandé à Jerry Lewis, d'après vous, là, il y a 200 personnes dans la salle, qui sont des élèves à vous. À combien de personnes vous avez, d'après vous, transmis vraiment ce que vous vouliez transmettre? Et il a dit, ce que je trouve génial, au moins une personne, moi.
Ouais, c'est beau.
Je trouve que c'est bien. Et bah, je sais pas, évidemment, je repique un peu l'idée hein, de Jerry Lewis. Je ne sais pas si j'ai vraiment transmis beaucoup de choses aux gens, mais ce qui est clair, c'est qu'à moi, ça m'a appris beaucoup de leur apprendre.
Ouais. Ouais.
Jusqu'au jour où j'ai eu appris, j'ai eu ce qu'il me fallait, si on peut dire. Et puis ça a dû concourir à 87, dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je voulais créer un lieu et faire des spectacles, tu vois. Parce que faire des clip-oups, moi ce que j'appelle des clip-oups, c'est-à-dire faire 4-5 minutes à une table... Puis tu vas à une autre table et tu fais ça jusqu'à temps qu'on te vire, parce que maintenant c'est fini, et puis il y a un spectacle sur scène. Et là, par contre, ça devient autre chose, tu vois. Toi, tu as l'air d'un con parce que tu as juste fait tes petits trucs, mais maintenant, par contre, il y a des gens sérieux sur scène. Eux, ils vont te montrer ce qu'est la magie, par exemple, tu vois. Parce que des fois, c'est des spectacles de magie, mais sur scène.
Oui.
Ou c'était des spectacles d'autre chose. Mais nous, on était première partie, nous autres, Close Up Man, tu vois. C'était vraiment le parent pauvre du truc. Donc moi, ça m'a amusé un temps, puis après, je me suis dit, non, ça va. Maintenant, je voudrais montrer les lettres de noblesse du Close Up, si on peut, et de faire des vrais spectacles de Close Up, et non pas seulement faire 3 minutes, 5 minutes à une table.
D'accord. Donc vous vous, en, vous sentiez rassasié par rapport au cours que vous donniez. En tout cas, vous aviez besoin de transmettre autre chose, de passer à la vitesse supérieure.
Oui. C'est pour ça que quand j'ai redonné des cours dans les années, 95-2000, quand j'ai recommencé à vraiment redonner des cours, là, l'optique était différente. C'est que où je prenais des gens qui étaient avancés en magie, confirmés, voire semi-pro, voire déjà pro, hein, j'en ai eu un peu de toutes les tendances que je viens de nommer là, ou des gens plus ou moins débutants, mais alors là, par contre, méga super motivés. S'ils n'étaient pas méga super motivés, ou si du moins ils le disaient, mais qu'en un cours ou deux, je voyais que non, hop, j'arrête. Donc j'ai changé vraiment diamétralement de manière de faire dans cette deuxième ou troisième période. Je dis deuxième ou troisième parce que pour moi, il y a eu les premiers cours que j'ai donnés dans les années 70. Bon, vraiment, c'était du basique, même si c'était que pour des magiciens, à la limite là, plutôt confirmé à l'époque. Parce que moi, j'ai gagné ma vie quand même pendant longtemps qu'avec les magiciens. Hein, je faisais de la magie pour magiciens. Je donnais des cours, je faisais des revues, je faisais des conférences, mais je faisais peu de choses pour le vrai public, la première période. Deuxième période, on va dire années 80-85, là j'ai vraiment fait les deux, c'est-à-dire je donnais des cours, mais je faisais aussi beaucoup de prestations avec un imprésario, j'en avais deux des imprésarios. J'avais Monique Nakachian et Daniel Saint-Jean, hein, qui s'occupaient de moi et qui me faisaient beaucoup travailler. Et après, il y a eu ce truc où je voulais que Daniel Saint-Jean fasse, lui, le fameux double fond.
Oui.
Lui, il n'a pas voulu. Il dit, bah non, on va se ramasser. J'ai dit, bah non, au contraire, il n'y en a pas, ça peut être bien. Il n'a pas voulu me suivre, je l'ai fait tout seul. J'ai été voir un banquier, puis j'ai acheté le truc. Puis voilà. Mais c'était la deuxième période, tu vois. Et après, troisième période, maintenant, je suis établi, entre guillemets, avec le double fond et entre-temps la boutique, hein, que j'ai achetée. Et donc, pour pouvoir vendre mes tours aussi. Parce que personne ne voulait me les acheter, parce que soi-disant, ce n'était pas commercial. Et j'ai, grâce à eux, merci d'ailleurs au passage pour ceux qui m'écoutent, grâce au fait qu'ils n'aient pas voulu vendre mes tours, parce que genre l'imprimerie, ce n'était pas commercial, toi, on m'a dit, et tout ça. Donc là, j'en ai vendu plus de 100 000, donc je suis content. Donc grâce à eux, j'ai pu gagner bien plus d'argent que s'ils avaient voulu m'acheter des tours. Parce que sinon, j'aurais pas... Pareil que si j'avais été très aimé du monde magique, je crois, j'aurais fait moins de choses.
Ouais. Et ça vous a nourri, en fait?
Oui, ou... j'ai pas fait pour ça. Parce que moi, je suis un électron libre, tu vois. C'est vrai, franchement, j'ai pas fait pour ça du tout. Mais c'est vrai que le fait de vivre des échecs, parce que échec, je montre un tour... un marchand, il n'en veut pas, et en gros, il me rit au nez, parce que mon truc, il est anti-commercial, je fais du débinage, et je t'en passe d'autres. Bon, bah, deux choses l'une, ou je me pends, ou je rebondis. Comme je te parle, j'ai plutôt rebondi. Et ça m'a servi.
Oui.
Hein, et j'encourage tous les gens qui m'écoutent, là, à jamais se laisser faire. Et quelque part, je répète, je ne l'ai pas fait pour ça, mais grâce au fait qu'on n'a pas voulu finalement tant que ça m'acheter de tours, qu'on n'a pas voulu tant que ça m'engager, à part les deux imprésarios en question, qui finalement ont arrêté, là je parle pour différentes raisons d'ailleurs, mais l'un des deux, dès que j'ai eu le double fond, a estimé que j'avais plus besoin de travailler. Alors que,
c'est surprenant.
Oui, c'est très surprenant, mais tu sais, c'est un peu... Je veux penser ça, peut-être que c'est plus méchant que ça, mais moi je veux penser ça, que c'est un peu comme un acteur ou une actrice, tu sais, on l'engage parce qu'il a une gueule pas possible, tu vois, genre, il fait gangster, tu vois. Donc on l'engage pour un rôle de gangster. Et après, tout le monde l'engage pour des rôles de gangster. Et s'il n'est pas capable, et c'est pas toujours facile, de dire non, Et ben, il va faire toute sa carrière en faisant des rôles de gangster. Parce qu'il a simplement la gueule un peu patibulaire, le mec, tu vois. Donc là, d'une autre manière, parce qu'évidemment, c'est pas ça le sujet, je fais des panouilles, je fais du table en table, on m'engage, j'achète le double fond, bah, y a un impresario, là, des deux dont que j'ai parlé tout à l'heure, qui part du principe, elle me l'a carrément dit, hein, la personne, hein. Moi je pensais que tu n'avais pas besoin de faire des galas puisque tu as le double fond. Je ne vois pas le rapport. Oui, j'ai le double fond, oui, j'y travaille. Mais je peux toujours faire des prestations à l'extérieur. En plus, ce n'est pas le double fond qui me rapporte de l'argent. Tu vois, il a fallu je ne sais pas combien d'années pour que je puisse gagner quelque chose avec le double fond. Putain. Et je m'en plains pas, parce que là aussi, il faut se battre. Bon, bah, d'abord, c'était monter un lieu, et puis j'ai remis de l'argent, on a remis avec Philippe de Pertuis, beaucoup, lui comme moi, sinon on aurait fait faillite, c'est évident, hein, parce que c'est pas facile de faire fonctionner un lieu, c'est d'ailleurs tellement pas facile que c'est pas par hasard qu'on est au moment où on parle, là, on est en février 2017, bah, on est quand même le seul lieu réel, où il n'y a que de la magie, 100% du temps, 7 sur 7,
c'est vrai,
c'est pas par hasard. C'est que c'est pas facile de créer un lieu, c'est pas facile d'avoir une troupe, c'est pas facile de gérer tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi je te disais ça, mais enfin, tout ça pour te dire que j'ai rebondi. On ne veut pas acheter de tours, bah, j'ai acheté la boutique Mayette. On ne veut pas finalement m'engager, bah, j'ai le double fond. Même si ce n'est pas vrai, parce qu'on m'engageait avant le double fond. Mais on m'engageait, je te répète, pour faire des trucs de 5 minutes. Moi, je voulais faire des mini one-man shows ou des one-man shows. Voire des two-man shows, tu vois, ou des three-man shows.
Ouais.
Mais je n'avais pas envie de continuer toute ma vie. De toute façon, tu fais le calcul, hein, 88, j'ai 38 ans, donc j'ai commencé à avoir roulé ma bosse,
oui,
j'ai gagné de l'argent, j'ai une certaine notoriété, mais ça me fait chier de faire des tours pendant 3 minutes, et qu'après, ça y est, on me fout dehors, enfin on me fout dehors, on me fout pas dehors, mais ça revient à ça.
Oui.
Parce que moi, je ne sais pas faire plus que ça pour eux, tu vois. Ben, moi, j'ai l'impression de savoir faire plus que ça. J'ai l'impression de valoir mieux que ça. J'ai l'impression que la magie vaut mieux que ça.
Tout à fait, oui.
Tu vois, je te le dis dans l'ordre, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans ma tête, ouais. Tu vois. Puis voilà, puis on en a chié, hein, parce que je ne suis pas le seul. C'était pas facile, parce qu'évidemment, t'as les gens qui veulent plus t'engager, comme je viens de te dire, mais t'as aussi les gens qui te crachent dessus, parce que... ah oui, toi, tu fais cavalier seul dans ton petit coin, tu vas voir, on va s'occuper de toi. Tu vois, bon. Comme en plus, j'ai jamais eu vraiment une bonne presse au niveau magique, et qu'on a toujours trouvé des manières de me nuire, donc ça a été d'autant plus difficile. Mais en même temps... d'autant plus efficace parce que aucun scrupule à avoir, comme là, tu vois, je peux te parler sans langue de bois, peu de gens peuvent le faire, parce que finalement, tout le monde est lié avec plein de gens. Moi, je suis lié avec personne. Je suis lié qu'avec des gens qui pensent en gros comme moi. C'est-à-dire, c'est pas que je leur ai forgé cette idée, c'est qu'ils sont aussi, eux, des électrons libres. Alors à ce moment-là, ils peuvent aussi y parler.
Tout à fait. Et qu'on vécu en même temps que vous, les difficultés...
Voilà, ceux qui sont toujours avec moi, ou ceux qui sont des sympathisants, ouais. Il y en a, hein, parce qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas, mais il y en a qui m'apprécient beaucoup. De toute façon, apparemment, je suis quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, hein, donc c'est rare que j'entende, oui, non, Olivier, je ne connais pas, je m'en fous. Non, c'est, ah, on déteste, ou ah, on adore, tu vois. Bon, bah voilà, c'est plutôt bien. Et je continue, tu vois, au jour d'aujourd'hui, à faire mon effet, tu vois, toujours dans ce genre de cadre. Dès que quelqu'un me cite sur un site, c'est la guerre immédiate, tu vois. Donc ça prouve qu'il y a des gens vraiment pour et il y a des gens vraiment contre. mais c'est parce que je crois que je fais vraiment chier, tu vois. Et si je fais vraiment chier, c'est parce que je pense que bah, j'apporte des choses. Et quand tu commences à bouger les masses, bouger la ligne, ça va pas, tu vois. Regarde, dans n'importe quel domaine, moi je me documente beaucoup sur beaucoup de domaines différents. Bah, la plupart, que ce soit Einstein ou d'autres, avant, alors, je crois que je me compare, hein, c'est que quand tu commences à explorer, bah, tu fous les mains un peu dans le cambouis, quoi. Hein, et bah, à partir de là, Cyrulnik, il va te dire la même chose au niveau de la psychologie, de la psychanalyse, où on lui a dit pique-pendre, parce que la résilience, comment, de quoi vous parlez, et puis il s'est fait descendre en flèche, j'ai lu un bouquin de lui là-dessus. Donc tu vois qu'en fait, dans tous les domaines, c'est comme ça, quoi. Dès que tu commences à changer les normes, tout le monde dit non, t'as pas le droit, il faut pas. Genre, tu ouvres un corps pour pouvoir soigner, hein, au début du siècle 1900, je crois, dans ces eaux-là, bah, on les guillotinait, les gens qui osaient, tu vois, autopsier quelqu'un, c'était pas possible, quoi. Alors que si on n'avait pas autopsié, on n'en serait pas là. Moi, je dirais déjà, je serais pas vivant aujourd'hui. Parce qu'il a fallu qu'on fasse des trucs, il a bien fallu qu'on fasse des essais avant, tu vois.
On est d'accord.
Donc il y en a des cyrulniques partout, il y a quand même des gens, heureusement, qui ne se laissent pas faire. Mais ce n'est pas facile, parce que bah, quand tu commences à ne pas être d'accord avec la meute, bah, la meute, elle te bouffe, enfin, elle essaie de te bouffer.
Et donc là, il faut croire en ses convictions.
À mort.
Il ne faut, ouais, faut ouais. pas lâcher.
Non, il ne faut pas lâcher. Une bonne conclusion, ça.
Oui, je regardais le temps, justement, de ce numéro. Alors, donc, bah, on va pas lâcher le fil de cette conversation qu'on va reprendre dans le numéro suivant, si vous voulez bien, Dominique.
Mais avec plaisir, Lionel.
À très vite.